Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, nous sommes à un jour du mois de décembre. Mais déjà, on peut regarder autour de la ville et voir des lumières de Noël et des sapins de Noël. On commence déjà à sentir l'ambiance de Noël. Et lorsque la période de Noël approche, le marketing supplémentaire arrive aussi. Les économistes disent que la saison de Noël est l'une des périodes les plus rentables de l'année pour les entreprises. Tant de personnes dépensent de l'argent pour des cadeaux, organisent des fêtes et achètent de la nourriture, qu'à la fin des fêtes, beaucoup se retrouvent avec des comptes bancaires vides. Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Les grandes entreprises feront ce que font les grandes entreprises. Les marketeurs feront ce que font les marketeurs. Mais en tant que croyants, nous devrions avoir un état d'esprit différent. L'Évangile, comme nous le voyons dans Jean 3:16, est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a donné Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, afin que nous puissions vivre. » Jésus est notre exemple de sacrifice. Il n'a pas essayé de garder sa vie, mais il l'a donnée. Et donc ce matin, je veux vous donner un message différent de celui que vous entendrez dans les publicités sur YouTube. Je veux vous donner un message différent de celui que vous verrez à la télévision pendant cette saison de Noël. Les messages qui essaient de vous convaincre d'être consumériste, d'être matérialiste, sont là. Mais Jésus vous propose une voie bien plus excellente. Ce matin, je veux prêcher sur le thème de la générosité et du don. Je parlerai de la raison vers la fin. Mais ce n'est pas un sujet sur lequel je prêche très souvent. Pour être honnête, c'est un sujet que j'évite parfois, simplement parce que je sais que certains d'entre vous ont eu de mauvaises expériences concernant les églises et les finances. Certains d'entre vous viennent d'églises où chaque sermon portait sur le don. Mais je crois que je vous rends un mauvais service en n'enseignant pas sur ce sujet, car il fait partie intégrante de notre vie quotidienne en tant que disciples de Jésus-Christ. Martin Luther a dit, de façon célèbre, qu'il y a trois conversions nécessaires pour la vie chrétienne. La conversion du cœur, la conversion de l'esprit, et la conversion du portefeuille. Alors, que dit Jésus au sujet de nos portefeuilles? Que dit Jésus au sujet de nos biens? Si vous avez une Bible, veuillez tourner avec moi dans Matthieu 6, verset 19. 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Jésus dit de ne pas faire de la terre notre trésor, là où les choses rouillent et sont volées, mais de constituer notre trésor dans le ciel, où ce trésor ne peut pas être détruit. J'aime que Jésus utilise ici le mot « trésor ». Il ne dit pas « argent » dans ce verset. Il dit « trésor ». Le mot « trésor » est un mot qu'on entend surtout chez les enfants de nos jours. Les enfants partent à la chasse au trésor, où ils enterrent leur trésor. Mais en tant qu'adultes, nous n'utilisons pas ce mot aussi souvent. Pourtant, c'est un bon mot parce qu'il désigne tout ce qu'une personne considère comme précieux ou de grande valeur. Ainsi, ce qui pourrait être précieux ou de valeur pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et ce qui pourrait être précieux ou de valeur pour vous ne l'est peut-être pas pour moi. Ma mère aime collectionner des choses. Quand j'étais enfant, elle collectionnait de petites figurines de canards, et plus récemment, elle collectionne des figurines de bonshommes de neige. Il ne neige pas vraiment là d'où je viens, mais toute l'année, si vous allez chez mes parents, vous verrez des petits bonshommes de neige partout. Alors, trouverez-vous de petits bonshommes de neige chez moi aujourd'hui? Non. Ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon trésor. Mais je dépense facilement de l'argent pour des livres, surtout des livres électroniques. Certains des livres, j'en ai lu 10%. D'autres, je ne les ai même pas encore commencés, mais je dépenserai sans problème quelques dollars pour un livre. On pourrait dire que je collectionne les livres. C'est mon truc. Et pour quelqu'un d'autre, il dirait, pourquoi gaspilles-tu tout cet argent en livres? Le trésor de l'un sera différent du trésor d'un autre. L'essentiel, c'est que nous avons tous quelque chose que nous considérons comme un trésor. Et Jésus dit, ne mettez pas tous vos trésors ici-bas, dans ce monde, parce que les choses se cassent, les choses rouillent, les choses sont volées. Je me souviens d'un Noël, quand j'étais enfant. J'avais demandé à mes parents un jouet Transformer, Optimus Prime. Et j'étais tellement excité lorsque j'ai ouvert mon cadeau et que j'ai trouvé précisément ce jouet-là. J'ai joué avec ce jouet pendant 5 minutes, puis la tête s'est cassée. Il n'était pas transformé, il était déformé, et j'étais dévasté. J'avais mis tout mon espoir et mon excitation dans ce jouet, et en 5 minutes, il était cassé. Mais cela a été une bonne leçon. Les choses se cassent. Jésus avait raison. Alors quelle est la meilleure manière? Vint, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Permettez-moi de deviner que vous n'entendrez pas les entreprises et les sociétés citer ce verset pendant la saison de Noël. Jésus dit qu'au lieu de mettre votre trésor sur la terre, là où les choses se cassent et rouillent, vous devriez placer votre trésor dans le ciel, là où les mythes ne peuvent pas l'atteindre, là où il ne rouillera pas, là où les voleurs ne peuvent pas le prendre. Et cela commence par faire du Christ votre trésor. Cela commence par s'assurer qu'il est sur le trône de votre vie. Si vous le considérez comme votre trésor avant tout, alors tout le reste, votre temps, vos talents et vos biens, découlera de cela. Jésus dit ici que déposer votre trésor dans le ciel est un investissement qui durera pour l'éternité. Ainsi, vous avez un choix à faire, entre les choses temporaires et les choses éternelles, entre investir dans ce monde et investir dans les choses du ciel. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais cela inclut aussi votre temps et vos talents. Vous pouvez investir toutes ces choses dans ce monde, ou vous pouvez les investir dans le royaume des cieux. Votre temps en sera le reflet, vos finances en seront le reflet, la manière dont vous utilisez vos talents et vos dons en sera le reflet. Si vous croyez que ce monde est tout ce qui existe, alors vos choix le montreront, vos décisions le montreront. Mais si vous comprenez que cette vie n'est que le début et que vous passerez l'éternité avec Jésus, alors cela changera les choix que vous ferez, les choses que vous posséderez, etc. Jésus dit ceci au verset 20 et 1. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La raison pour laquelle c'est un sujet important concernant la manière dont nous sommes disciples de Jésus-Christ, c'est parce que, comme Jésus le dit, nos cœurs sont liés à ce que nous considérons comme un trésor. Tout est lié. La raison pour laquelle j'étais dévasté enfant lorsque mon jouet Transformer s'est cassé, c'est parce que c'était mon trésor. C'est pour cela que cela m'a affecté émotionnellement. Qu'est-ce que je considère comme un trésor aujourd'hui?
Une façon de le mesurer serait de consulter l'historique de mon compte bancaire du mois dernier. Sur quoi ai-je dépensé de l'argent, en dehors des factures courantes? Qu'est-ce que j'ai jugé important? Une autre façon de le mesurer serait de regarder mon agenda. Où ai-je passé mon temps ce mois-ci? Qu'est-ce que j'ai jugé important? Qu'est-ce que votre agenda révélerait? Qu'est-ce que l'historique de votre compte bancaire montrerait? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous considérez comme un trésor? Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche dans les évangiles. Il disait avoir respecté tous les commandements. Mais lorsque Jésus lui a demandé de vendre ce qu'il possédait et de le donner aux pauvres, le jeune homme est reparti tout triste, car il avait de nombreux biens. Jésus avait révélé ce qui se trouvait dans son cœur. Il avait amassé son trésor sur la terre, au lieu de l'amasser dans le ciel. Malheureusement, les choses qu'il possédait ont fini par le posséder.
Si vous croyez que cette vie est tout ce qui existe, l'endroit où vous placerez votre trésor le reflétera. Jésus a également raconté une parabole à ce sujet. Luc 12, 16 à 21. 16, il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » 17, il réfléchissait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » 18, « Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » 19, « Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » 20, « Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. »
Dans cette parabole, le champ de l'homme riche a produit beaucoup de récoltes. Mais au lieu d'en donner une partie à quelqu'un qui en aurait besoin ou de l'offrir au Seigneur, l'homme riche abat ses greniers pour en construire de plus grands, pour avoir plus de place pour sa nourriture. Et il se dit à lui-même de se détendre, de manger, de boire et de se réjouir, parce qu'il a assez de biens pour toute sa vie. Il pense que tout va bien. Il croit qu'il est en sécurité. Il a mis son espoir dans sa richesse, et maintenant qu'il en a beaucoup, il pense pouvoir se détendre.
Mais Dieu dit à l'homme riche, « Tu es un insensé. Tu vas mourir cette nuit, et que pourras-tu faire de toutes tes possessions quand tu seras mort ?» Et la réponse, bien sûr, c'est qu'il ne pourra rien en faire. Il ne pourra pas les emporter avec lui lorsqu'il mourra. L'homme riche pensait qu'il était en sécurité. Il pensait avoir tout compris. Je suis sûr qu'il se croyait très intelligent, mais à la fin, il a été un insensé, parce que, comme l'a dit Jésus, il a amassé des trésors pour lui-même. Il avait gagné le monde, mais avait perdu son âme. C'est une parabole triste, car l'homme riche avait mis son espérance dans la mauvaise chose. Il avait placé sa sécurité dans la mauvaise chose. Avoir de l'argent n'est pas mauvais. C'est lorsque l'argent devient une idole, lorsque cela devient la seule chose à laquelle tu penses, lorsque tu trouves ta sécurité en lui, que cela va trop loin.
Hébreux 13, 5 dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. » 1 Timothée 6, 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. »
Matthieu 6, 24 dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il n'y a rien de mal à l'argent. L'argent peut être utilisé de nombreuses façons pour investir dans le royaume des cieux. Il peut aider à nourrir les affamés. Il peut aider à offrir un abri aux gens. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Et en réalité, il n'y a rien de mal à être riche non plus. Dans la Bible, nous avons des exemples de personnes pieuses qui étaient riches. Je connais des gens riches qui sont extrêmement généreux et qui donnent beaucoup. Donc être riche n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand l'argent devient notre Dieu. Et Jésus dit que nous ne pouvons pas avoir les deux à la fois. Nous ne pouvons avoir qu'un seul maître. Nous devons donc être prudents en ce qui concerne l'argent.
Alors comment éviter ce piège? Comment avoir une vision et une relation juste avec l'argent?
Un bon point de départ, en ce qui concerne notre trésor, en ce qui concerne nos finances, c'est la vérité que nous ne sommes pas propriétaires. Mon premier point est, vous êtes un gestionnaire, non un propriétaire. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre, et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. En d'autres termes, la terre appartient au Seigneur, et tout ce qui s'y trouve aussi.
Même si nous pensons posséder des choses ici sur terre, ultimement, tout appartient au Seigneur. Il a créé la terre. Il nous a créés. C'était le problème de l'homme riche dans la parabole. Il pensait être le propriétaire, mais il ne l'était pas. Lorsqu'il est mort, il n'a pas pu emporter toutes ces choses avec lui. Donc nous ne sommes pas propriétaires, mais nous sommes des gestionnaires, ou des intendants, ce qui signifie que Dieu nous a confié des choses et que nous devons être sages dans la façon dont nous utilisons ces ressources.
La première étape pour ramasser votre trésor dans le ciel est de comprendre que tout appartient à Dieu. Ce n'est pas mon argent. C'est l'argent que Dieu nous a donné pour que nous en soyons de sages gestionnaires. Voilà l'essence de la parabole des talents. Dieu a fait de nous des intendants et des gestionnaires du trésor qu'il nous a confié. La question est, comment allez-vous gérer ce que Dieu vous a donné? Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Donc, premièrement, vous devez savoir d'où vient votre trésor. Vous êtes un gestionnaire, pas un propriétaire. Deuxième point, une autre façon d'amasser votre trésor dans le ciel est d'être généreux, de donner. 2 Corinthiens 9, 6 à 7 dit, voici mon point. Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment aussi. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Il y a plusieurs éléments ici.
Paul utilise une métaphore agricole que tout le monde comprenait à l'époque. Si vous ne semez pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup de récolte. Mais si vous semez abondamment, vous pouvez vous attendre à une plus grande récolte. Paul applique cette métaphore de l'agriculture aux dons. Ceux qui sont généreux sont simplement plus bénis que ceux qui ne le sont pas. Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le contexte dans 2 Corinthiens ne parle pas des montants, mais de notre attitude et de nos motivations pour donner. Paul écrit dans 2 Corinthiens 9 que Dieu aime celui qui donne avec joie, et que chacun doit donner comme il l'a décidé en son cœur. La vie chrétienne ne consiste pas à garder tout votre argent et vos ressources pour vous-même. Il s'agit d'être généreux. Être généreux envers les personnes dans le besoin et rendre à Dieu ce que Dieu vous a donné. Donner fait partie de la vie chrétienne. Nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Donner est une forme d'adoration.
Le verset 7 nous dit aussi comment nous ne devrions pas donner. Nous ne devrions pas donner à contre-cœur. Et nous ne devrions pas donner sous la contrainte. C'est-à-dire, vous ne devriez pas donner parce que quelqu'un vous oblige à donner. Vous ne devriez pas donner par culpabilité. Ce n'est pas là l'esprit. Un donneur joyeux est quelqu'un qui donne avec la gentillesse de son cœur. Comme la pauvre veuve qui a donné tout ce qu'elle avait. Quel type de don voyons-nous dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, il y avait un système de dîme. La dîme signifiait donner 10% de vos récoltes ou de vos animaux au temple, ce qui aidait à payer les prêtres qui y travaillaient. Dans le livre du Lévitique 27, 30, il est dit « Toute dîme de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Dans le Nouveau Testament, nous voyons des croyants donner à leur église locale. Nous voyons des dons pour aider d'autres chrétiens dans le besoin. Et nous voyons aussi des dons pour soutenir des missionnaires en dehors de l'église locale.
Parfois les gens pensent « Oh, si j'avais plus d'argent, je serais plus généreux. » Mais ce n'est généralement pas ainsi que cela fonctionne.
De la même manière, certaines des personnes les plus généreuses que je connaisse n'ont pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas une question de solde de votre compte en banque. C'est une question de cœur. Vous n'avez pas besoin de 10 millions de zloty pour être avare. Une personne peut être avare
avec 10 zloty. De la même façon, une personne avec 10 millions de zloty pourrait être très généreuse, tandis que la personne avec 10 zloty pourrait ne pas être généreuse du coup. L'essentiel est d'être généreux avec ce que Dieu vous a donné. Donner est un moyen de déposer votre trésor dans le ciel. Un dernier passage des Écritures, avant que je partage pourquoi je prêche sur ce sujet aujourd'hui. Philippiens 4, 14 à 16. 14, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je suis parti de Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qui concerne donner et recevoir, excepté vous seul. 16. Et à Thessalonique, vous m'avez envoyé à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins.
Paul remercie l'église de l'avoir aidé financièrement.
L'église de Philippe a veillé à ce que les besoins de Paul soient satisfaits. Ils ont collecté de l'argent et le lui ont envoyé. C'est vraiment gentil, n'est-ce pas? Mais ensuite, Paul dit quelque chose dans le verset 17 qui peut sembler étrange. 17. Ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Paul reconnaît d'abord que l'Église l'a aidé. Mais il précise ensuite que, pour lui, leur don n'est pas la chose la plus importante. Le don en lui-même n'était pas ce qui comptait le plus pour Paul. Qu'est-ce qui était plus important? Il dit qu'il recherche le fruit qui abondent pour leur compte.
En d'autres termes, ce qui importait le plus pour Paul, ce n'était pas le montant du don que l'Église avait donné, mais il était plus enthousiasmé par ce que l'acte de donner produirait dans le cœur des gens. Il était plus enthousiasmé par le fruit spirituel qui naîtrait dans le cœur des personnes que par la somme d'argent qu'elles donnaient. Dernier point, Paul dit ce que Jésus a déjà dit. 3. Qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Paul était plus heureux de la bénédiction spirituelle que les Philippiens recevraient en donnant que du cadeau qu'il avait reçu d'eux. Voilà le coin. Dans un instant, je vais mentionner un besoin financier. Mais il y a quelque chose de plus important que ce besoin. Il y aura toujours des besoins, n'est-ce pas? Ce qui est plus important pour vous, où que vous soyez, que vous soyez ici à Gdansk pour les 10 prochaines années ou ailleurs, c'est que vous soyez une personne généreuse et qui donne.
Les personnes les plus joyeuses que je connaisse sont généralement les plus généreuses. Et certaines des personnes les plus malheureuses que je connaisse ne sont pas du tout généreuses. La vie chrétienne ne consiste pas à tout garder. La vie chrétienne consiste à donner et à se sacrifier. Notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, n'a pas gardé sa vie, mais il l'a donnée, afin que nous puissions avoir la vie en lui. La Bible dit qu'à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Mais Jésus, dans sa grand amour et miséricorde, est venu et a payé une dette que nous ne pouvions pas payer. Il est mort sur la croix pour notre péché. Ses dernières paroles sur la croix ont été « Tout est accompli ». Ce qui était un terme comptable signifiant « payer intégralement ». Il a payé la peine de notre péché sur la croix et a été enseveli. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et en croyant en lui comme Seigneur et Sauveur, vous pouvez être pardonné de votre dette de péché. Voilà notre exemple.
Alors, pourquoi est-ce que je prêche sur ce sujet aujourd'hui?
Eh bien, comme vous l'avez peut-être remarqué, en entrant dans ce sanctuaire, nous avons fait certains achats. Nous avons acheté ces portes en verre, afin de pouvoir étendre notre espace le dimanche matin. Nous avons acheté de la moquette, qui sera installée mercredi. Nous avons acheté les matériaux pour cette estrade que Marek a assemblée. Nous avons acheté de la peinture, du matériel de peinture, des câbles, des supports et bien d'autres choses. Et jusqu'à présent, toutes ces choses ont été payées grâce à 3 dons généreux qui ont été faits il y a quelques mois, lorsque nous pensions déménager au rez-de-chaussée.
Mais ces dons ont presque tous été utilisés
et il nous reste encore quelque chose à acheter. Des chaises, de la signalisation, du matériel de ventilation, du matériel audiovisuel, la construction d'une cabine pour l'équipe des médias à l'arrière, et d'autres éléments que nous pensons nécessaires. Vous vous dites peut-être, attendez une minute, des chaises, du matériel, des panneaux, tout cela va rouiller et se casser, et finira probablement à la poubelle un jour. N'est-ce pas là amasser des trésors sur la terre? Il est vrai que ces chaises ne dureront pas toujours. Mais il est également vrai que cette salle ne durera pas toujours, que ce bâtiment ne durera pas toujours. Dans 50 ans, il n'y aura peut-être plus rien de tout cela ici. Les choses dans cette pièce ne dureront pas éternellement. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le ministère qui se passe dans cette salle, lui, durera éternellement. Il ne s'agit donc pas d'avoir de beaux haut-parleurs. Il s'agit du message de l'Évangile qui sort de ces haut-parleurs. Il ne s'agit pas d'avoir de belles chaises. Il s'agit d'avoir une chaise sur laquelle votre voisin, que vous invitez à l'église depuis un moment, pourra venir s'asseoir ici et entendre parler de Jésus-Christ.
Il ne s'agit pas d'avoir une belle moquette.
Il s'agit d'avoir un espace chaleureux et accueillant pour organiser des événements comme le brunch des dames dans 2 semaines. D'après les dernières nouvelles, plus de 90 femmes se sont inscrites pour venir partager un moment de communion au nom de Jésus-Christ. Les choses dans cette salle ne dureront pas éternellement. Les choses dans cette salle sont temporaires. Mais le ministère qui se passe dans cette salle durera éternellement. C'est pourquoi, pour la première fois depuis que nous avons emménagé dans ce sanctuaire, nous vous invitons officiellement à donner spécifiquement pour l'œuvre qui se fait ici dans le sanctuaire. Et j'aimerais fixer un objectif pour nous, en tant qu'Église, à atteindre d'ici la fin de l'année. Nous ne connaissons pas exactement le coût des éléments restants, donc il me semble plus simple de vous donner un chiffre rond. Et le chiffre que nous avons retenu est de 100 000 zloty. C'est un 1 suivi de 5 zéros. Décembre commence demain, cela nous laisse donc essentiellement un mois pour collecter 100 000 zloty.
Maintenant, ce n'est qu'un chiffre. C'est un chiffre que nous espérons atteindre. Mais ce n'est pas un chiffre qui est écrit dans la Bible. Dieu pourvoira toujours à nos besoins en tant qu'Église, que nous atteignions ce chiffre ou non. Mais il est important de faire un pas de foi et de demander, chercher et frapper. Je crois que nous pouvons atteindre cet objectif ensemble. Je crois que vous voulez investir dans les choses qui dureront éternellement. Je crois que ce sont des moments comme celui-ci qui nous lient et nous unissent en tant qu'Église. Avoir un objectif commun et un but commun. Je crois que nous désirons tous voir Dieu accomplir de grandes choses en nous et à travers nous. Je crois que vous et moi, dans 20 ans, raconterons à quelqu'un l'histoire de la façon dont nous avons pu faire partie de l'œuvre de Dieu ici. Je crois que des personnes qui ne suivent pas Jésus aujourd'hui entendront parler de lui dans cette salle et choisiront de le suivre ici.
Hier soir, je suis allé chez Media Expert au 2e étage pour acheter un câble. J'y suis allé au moins 10 fois cette semaine. J'ai parlé à un jeune homme qui y travaillait. Il a commencé à me poser des questions sur l'église et je l'ai invité à venir. Nous n'avons même pas encore une véritable enseigne ici, mais déjà tant de personnes sont passées et ont demandé « Gospel Church, Kotoyest », ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» Je crois que Dieu fait quelque chose dans ce lieu. Et en donnant, nous pouvons faire partie de cette œuvre. Donc, dans un instant après ma prière, nous allons faire passer les paniers d'offrandes. Normalement, nous le faisons pendant les annonces. Mais aujourd'hui, nous allons le faire plus tôt. Et tout ce qui sera donné aujourd'hui sera destiné au nouveau sanctuaire. Si vous effectuez un virement, veuillez indiquer « Nouveau sanctuaire » dans l'intitulé du virement. Il y a un terminal de paiement là-bas.
tous les paiements effectués aujourd'hui à cet endroit iront également au nouveau sanctuaire.
Mais voici ce qu'il faut retenir. Ne donnez pas sous la pression. Ne donnez pas par culpabilité. Si c'est votre motivation, s'il vous plaît, ne donnez rien. Comme nous l'avons lu, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et une autre chose, si vous avez une famille, discutez avec elle de la manière dont vous pouvez donner ensemble. Faites-en une affaire de famille. Si vous avez des enfants, incluez-les dans la conversation. Aidez-les à voir que donner ne nous aide pas seulement à accumuler un trésor dans le ciel, mais que cela produit aussi quelque chose de bon en nous. Aidez-les à comprendre qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore une chose. Si vous nous regardez sur YouTube ou Facebook, nous voulons aussi vous inviter à faire partie de cela. Je sais que nous avons des gens qui nous regardent du monde entier. Alors quand nous achetons une caméra, un câble ou plus de Wi-Fi, nous le faisons aussi en pensant à vous. Donc, vous faites aussi partie de cette aventure. Nous vous invitons à aller en ligne pour savoir comment donner. Tout au long du mois de décembre, nous vous tiendrons au courant de notre objectif. Comme je l'ai dit au début, les bijouteries vont tout faire pour vous attirer ce mois-ci. Les fabricants de jouets vont tout faire pour vous attirer ce mois-ci. L'industrie de la mode va tout faire pour vous attirer ce mois-ci. Vous verrez des publicités pour de nouveaux gadgets et de nouveaux jeux. Les services marketing de toutes ces entreprises vont tout faire pour vous attirer. Et leur message est toujours le même. Achète ceci, achète cela. Prends, prends, prends. Dépense, dépense, dépense. Accumule, accumule. Toujours plus et encore plus. Jésus est venu avec un message bien différent. Il a dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. 1 mois, 100 000 zloty. D'où cela va-t-il venir? Je crois que le Seigneur pourvoira. Mais j'espère que cela viendra de vous. Comme Paul l'a dit, non pas pour le cadeau en lui-même, mais pour vous, pour le fruit spirituel que Dieu produit en vous. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fin du sermon.